Je fus avec Dee dans la ville d'or. Nous parcourions des passages étroits et malodorants, non loin du cimetière juif, et Dee me disait de faire attention.
Si la nouvelle du contact manqué s'est répandue, disait-il, les autres groupes doivent se remuer pour leur propre compte, je crains les juifs. Les hiérosolimitains ont ici à Prague trop d'agents.
C'était le soir. La neige luisait, bleuâtre. Devant la sombre entrée du quartier juif, les éventaires de la foire de Noël étaient accroupis avec, au milieu d'eux, tendus de draps rouges et éclairés par des torches fumantes, la scène obscène d'un théâtre de marionnettes. Mais sitôt après, on passait sous une arcade de pierre de taille, et près d'une fontaine en bronze, dont les grilles laissaient pendre des stalactites de glace, s'ouvrait la voûte d'un autre passage. Sur deux vieilles portes, des têtes dorées de lions mordaient des anneaux de bronze. Un léger frémissement courait le long de ces murs, d'inexplicables râles roulaient des toits bas et coulaient dans les chaîneaux. Les maisons trahissaient une existence fantomatique, occulte d'âme de la vie. Un vieil usurier enveloppé dans une simarre élimée nous effleura presque en passant et il me sembla l'entendre murmurer « Gardez-vous d'Anathasius Pernat !» dit murmura à son tour « Je crains un tout autre Athanasius. » Et soudain, nous fûmes dans la ruelle des faiseurs d'or. Ici, et les oreilles que je n'ai plus frissonnent à se souvenir sous ma calotte râpée, tout à coup, dans l'obscurité d'un nouveau passage inattendu, se campa devant nous un géant. Un horrible être gris à l'expression atone. Le corps quatrefactaire à patine couleur bronze appuyé sur un noueux bâton de bois blanc tourné en spirale. Une intense odeur de santal émanait de cette apparition. J'éprouvais une sensation d'effroi mortel coagulée par enchantement tout entier dans cet être qui était devant moi, et pourtant, je ne pouvais détourner le regard de la boue de vapeur pâle qui lui enveloppait les épaules. Et c'est avec peine que j'arrivais à distinguer la face rapace d'un ibis égyptien, et derrière elle, une multiplication de visages, cauchemar de mon imagination et de ma mémoire. Les contours du fantôme, qui se découpait dans l'obscurité du passage, se dilatait et se rétractait, comme si une lente respiration minérale envahissait la silhouette entière. Et horreur, à la place des pieds, comme je le fixais, je vis sur la neige des moignons osseux dont la chair grise et vide de sang était remontée jusqu'à la cheville en bourrelet gonflé. Oh ! Mes voraces souvenirs. Le golem, dit Dee. Puis il leva les deux bras au ciel et sa simarre noire retombait avec ses amples manches au sol, comme pour créer un cingulum, un cordon ombilical entre la position aérienne des mains et la surface ou les profondeurs de la terre. « Jezebel, Malkout, smoke gates in your eyes, dit-il. » Et tout à trac, le golem se dissolut tel un château de sable, frappé par un coup de vent. Nous fûmes presque aveuglés par des particules de son corps d'argile qui se fragmentaient comme des atomes dans l'air. Et à la fin, nous eûmes à nos pieds un petit tas de cendres brûlées. Dee se pencha, fouilla de ses doigts décharnés dans cette poussière, en retira un bout de parchemin qu'il cacha sur sa poitrine. Ce fut à ce point-là que surgit de l'ombre un vieux rabbin à la kippa graisseuse qui ressemblait beaucoup à ma calotte. « Le docteur Dee, je suppose, dit-il. »
« Here comes everybody, » répondit humblement Dee. « Rabbi Alevi, quel plaisir de vous voir. »
Et l'autre. « Par hasard, n'avez-vous pas vu un être en train de rôder dans les parages ?»«
Un être ?» dit Dee en feignant l'étonnement. « De quelle facture ?»«
Au diable, Dee, » dit Rabbi Alevi. « C'était mon golem. »«
Votre golem ?»« Je n'en sais rien. »«
Attention à vous, docteur Dee, » dit livide Rabbi Alevi. « La partie que vous jouez vous dépasse. » »«
J'ignore de quoi vous voulez parler, Rabbi Alevi, » dit Dee. Nous sommes ici pour fabriquer quelques onces d'or à votre empereur. Nous ne sommes pas des nécromanciens de quatre sous.
Rendez-moi au moins les bouts des parchemins, implora Rabbi Alevi.
Quel bout de parchemin ? Demanda Dee avec une diabolique ingénuité.
Soyez maudit, docteur Dee, dit le rabbin. En vérité, je vous l'ai dit, vous ne verrez pas l'aube du siècle nouveau.
Et il s'éloigna dans la nuit en murmurant d'obscures consonnes sans aucune voyelle. Oh, langue diabolique et sainte.
Dee s'était adossé au mur humide du passage, le visage terreux, les cheveux dressés sur la tête, comme ceux du serpent.
« Je connais Rabbi Alevi, dit-il.
« Je mourrai le 5 août 1608 calendrier grégorien. Et donc, quel est ?
Aidez-moi à mettre en œuvre mon projet. C'est vous qui devrez le mener à son terme.
Gilding pale stream with heavenly alchemy.
Rappelez-vous ?
Je me le serai rappelé. Et William avec moi. Et contre moi. »
Il ne dit plus rien. La brume pâle qui frotte son dos contre les vitres, la fumée jaune qui frotte son dos contre les vitres, passait sa langue sur les angles du soir. Nous étions maintenant dans une autre ruelle,
des vapeurs blanchâtres émanaient des grilles, à ras de terre, par où on apercevait des bouges au mur de guingois, scandés à travers une gradation de gris fuligineux, j'entrevis alors qu'il descendait à tâtons un escalier, aux marches anormalement orthogonales, la silhouette d'un vieil homme à la redingote élimée et au grand chapeau haute forme. Dit aussi le vit.
« Caligari ! » s'exclama-t-il. « Ici, lui aussi ! Et chez Madame Sosostris ! The famous clairvoyant ! Il faut faire vite !»
Nous doublâmes le pas et parvinrent à la porte d'une bicoque dans une venelle à l'éclairage douteux sinistrement sémite. Nous frappâmes. La porte s'ouvrit comme par enchantement. Nous entrâmes dans un vaste salon orné de chandeliers à sept branches, tétragrammes en relief, étoiles de David en éventail. Des vieux violons couleur de glacis de tableaux anciens s'entassaient à l'entrée sur une table d'une anamorphique irrégularité. Un grand crocodile pendait, momifié, de la haute voûte de l'antre, oscillant légèrement à la brise du soir, à la faible clarté d'une seule torche, ou de nombreuses, ou d'aucune. Sur le fond, devant une sorte de tente ou baldaquin sous quoi se dressait un tabernacle, priant à genoux, murmurant sans trêve et blasphématoirement les 72 noms de Dieu, se trouvait un vieux. Je sus par une subite fulguration du nous que c'était Heinrich Konrad.
« Oh, solide dit !» dit celui-ci en se retournant et interrompant son oraison. « Que voulez-vous ? »
Il avait l'air d'un tatou empaillé, d'un iguane sans âge.
« Konrad, dit-il, la troisième rencontre n'a pas eu lieu. »
Konrad explosa en une horrible imprécation.
« Lapis exilis, et alors ?»« Konrad, dit-il, vous pourriez lancer un appât et me mettre en contact avec la génération templière allemande. »« Voyons, dit Konrad, je pourrais demander à Mayer, qui est en contact avec beaucoup de gens à la cour. » Mais vous me direz alors le secret du lait virginal, du four très secret des philosophes. »
Dit sourit. Oh, le sourire divin de ce sage. Ensuite, il se contracta comme en prière et susurra tout bas. « Quand donc tu voudras convertir et résoudre en eau ou en lait virginal le mercure sublimé, mets-le sur la lamine entre la dent et l'écuelle avec la chose diligemment pulvérisée, et ne le couvre point. Mais fais que l'air chaud frappe la matière nue, administre-lui le feu de trois charbons, et garde-le vif pendant 8 jours solaires. Ensuite ôte-le et broie-le bien sur le marbre tant qu'il ne sera pas devenu impalpable. Après quoi, mets la matière dans un alambic de verre et la fais distiller au Balneum Mariae, dessus un chaudron d'eau, tellement qu'il ne touche point l'eau de 2 doigts près, mais soit pendu en l'air et simultanément, « fais un feu dessous le bain. » Alors, et seulement alors, bien que la matière du vif argent ne touche point l'eau, néanmoins, se trouvant dans ce ventre chaud et humide, elle se convertira en eau.
« Maître, dit Konrad, en tombant à genoux et baisant la main décharnée et diaphane du docteur dit, « Maître, ainsi ferai-je, et toi tu auras ce que tu veux, souviens-toi de ces mots, la rose et la croix. Tu en entendras parler. »
Dit s'enveloppa dans sa simarre comme dans une cape et il n'en sortait que ses yeux étincelants et malins.
« Allons, quel est, dit-il. Cet homme est à nous désormais.
Et toi, Konrad, retiens le golem loin de nous jusqu'à notre retour à Londres et après que Prague ne soit plus qu'un bûcher. » Il fit mine de s'éloigner. Konrad, d'un pas rampant, le saisit par le pan de son manteau.
« Chez toi viendra peut-être un jour un homme. Il voudra écrire sur toi. Sois un ami pour lui. »
« Donne-moi le pouvoir, dit-il, avec une indicible expression sur son visage émacié, et sa fortune est assurée. » Nous sortîmes. Une dépression au-dessus de l'Atlantique se déplaçait d'ouest en est en direction d'un anticyclone situé au-dessus de la Russie.
« Allons à Moscou, lui dis-je. »«
Non, répondit-il. Retournons à Londres. »«
À Moscou, murmurai-je, pris de folie. »« Tu savais bien qu'elle est, que tu n'irais jamais. La tour t'attendait. »
Nous sommes revenus à Londres. Le docteur Dee a dit, il cherche d'arriver à la solution avant nous. Quelle est, tu écriras pour William quelque chose de diaboliquement insinuant sur eux.
Ventre du démon, je l'ai bien fait.
Et puis, William a trafiqué le texte et il a tout transposé de Prague à Venise. Dee s'était mis dans une colère noire, mais le pâle visque William se sentait protégé par sa royale concubine. Et ça ne lui suffisait pas. Comme au fur et à mesure, je lui passais ses meilleurs sonnets, il me demandait avec un regard effronté de ses nouvelles à elle.
« De tes nouvelles, my dark lady !»
Quelle horreur d'entendre ton nom sur ses lèvres de cabot. Je ne savais pas que, esprit par damnation double et vicariant, il la cherchait pour Bacon.
« Ça suffit, lui ai-je dit, je suis fatigué de bâtir dans l'ombre ta gloire. Écris-toi, pour toi-même. » « Je ne puis, » m'a-t-il répondu avec le regard de qui a vu un lémur. « Il ne me le permet pas. »«
Qui ?»«
Dis. »« Non, le Vérulam. » »«
Tu ne t'es pas rendu compte que c'est lui désormais qui règle le jeu ?»« Il me contraint à écrire les œuvres qu'il se vantera ensuite d'avoir écrites. »« Tu as compris qu'elle est. »« C'est moi qui suis le vrai Bacon, et la postérité ne le saura pas. »« Oh, parasite, que je hais ce suppôt de Satan. »
Bacon est un misérable, mais il est doué, dis-je. Pourquoi n'écrit-il pas de sa propre main ?
J'ignorais qu'il n'en avait pas le temps. Nous nous en rendîmes compte quand, des années plus tard, l'Allemagne fut envahie par la folie Rose-Croix. Alors, en rassemblant des allusions dispersées, des mots qui malaisément lui avaient échappé, je compris que l'auteur des manifestes des Rose-Croix, c'était lui. Il écrivait sous le faux nom de Johann Valentin Andrea. Je n'avais pas compris alors. Pour qui écrivait Andrea ?
À présent, depuis l'obscurité de cette cellule où je languis, plus lucide que Don Isidro Parodi, à présent, je sais.
C'est Soapes, mon compagnon de prison, un ex-templier portugais qui me l'a dit. Andrea écrivait un roman de chevalerie pour un Espagnol qui, en attendant, gisait dans une autre geôle.
Je ne savais pas pourquoi, mais le projet servait à l'infâme Bacon, qui aurait voulu passer à l'histoire comme l'auteur secret des aventures du Chevalier de la Manche,
et qui demandait à Andrea de lui rédiger en secret l'ouvrage dont ensuite il se serait fait passer pour le vrai auteur occulte, afin de pouvoir jouir dans l'ombre.
Mais pourquoi ? Du triomphe d'un autre !
Mais je divague. Maintenant que j'ai froid dans ce cachot et j'ai mal aux pouces, je rédige à la pâle lueur d'une lampe à huile moribonde les dernières œuvres qui resteront sous le nom de William.
Le docteur D est mort en murmurant « De la lumière, plus de lumière !» et en demandant un cure-dent. Puis il a dit
« Qualis artifex pereo ».
C'est Bacon qui l'a fait assassiner.
Depuis des années, avant que la reine ne disparût, déglinguée d'esprit et de cœur, Vérulam l'avait en quelque sorte séduite.
Désormais, ses traits étaient altérés. Elle était réduite à l'état de squelette. Pour toute nourriture, elle n'avalait plus qu'un petit pain blanc et une soupe de chicorée. Elle gardait à sa hanche une épée et, dans ses moments de colère, elle la plongeait avec violence dans les rideaux et les damas qui recouvraient les murs de sa retraite.
Et si derrière, il y avait eu quelqu'un à l'écoute ? Ou un rat ?
Un rat ? Bonne idée, vieux qu'elle est ! Il faut que je la note.
La vieille, réduite à cet état, il fut facile à Bacon de lui faire accroire qu'il était William, son bâtard. Comme il se présentait à ses genoux, elle, devenue aveugle, lui, recouvert de la peau d'un mouton,
la toison d'or !
On a dit qu'il visait le trône, mais je savais qu'il voulait bien autre chose, la main mise sur le plan.
C'est alors qu'il devint vicomte de Saint-Alban. Et comme il se sentit fort, Eliminadi